Alors, je suis avec Ewen et Ronan des Lost in the Swell. Bonjour, messieurs.
Salut.
Salut. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'aventure Lost in the Swell, ça a en fait commencé, on va dire, avec des illusions. C'était maintenant il y a une petite dizaine d'années, hein, ça ne nous rajeunit pas. C'est l'histoire, en fait, de trois potes poussés par l'envie de voyager, de surfer des vagues inconnues, le tout en réduisant au minimum l'impact écologique. Donc, il y a Ronan et Ewen qui sont avec nous et Aurel Jacob. Si on résume un peu, ils sont partis en Indonésie et essayer de survivre, de surfer, de se filmer, etc. Ensuite, il y a eu de la navigation sur un trimaran éco-conçu en Bretagne, puis aux îles Salomon. Après, il y a eu je sais pas si on peut appeler ça comme ça, le vélo carriole dans les Landes, enfin en Aquitaine, puis au Gabon. Il y a eu l'aventure à pied, accompagné d'Anne au Maroc. Il y a eu le surf de nuit aussi en Bretagne, puis sur la mythique vague de Mundaka, on les a vus sur l'aventure du foil aussi. Et la dernière web-série Pata Yubia, si je prononce bien, est sortie sur YouTube mi-avril. Donc le premier épisode est sorti le 13. On vous avait aussi vu dans Baravel il y a un petit moment. Alors de Baravel à Pata Yubia, beau chemin parcouru. Déjà, première question, vous le voyez comment, ce chemin, cette route?
Je sais pas, le poids de l'âge? Non, bah, c'est sympa, mais c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on fait ça. Et après, je pense qu'on est. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, ouais, mais on est assez content d'avoir gardé un peu le même esprit qu'on avait. Alors, ce qu'on peut dire vraiment contextuellement, c'est que Baravel, on a fait ça avant la crise de 2008. Donc, on avait eu assez de facilité à trouver des financements, et notamment avec Anna Beach. Et est arrivée la crise de 2008. Et en gros, c'est pour ça qu'on est parti faire des illusions, essayer de survivre sur une île déserte, parce que voilà, il n'y avait plus de boulot. C'était la morne un peu en France et dans le monde. Et du coup, là, on se retrouve un peu dans une situation finalement similaire, sauf qu'on a réussi à partir un petit peu avant, quoi.
Ouais. Et donc là, Patayubia, comment le choix de la Patagonie, enfin comment ça s'est fait, pourquoi vous êtes parti en Patagonie?
Bah, ça fait un bout de temps que les gens nous demandent qu'ils aimeraient bien nous voir galérer dans des contrées plus froides. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on est parti sous les tropiques pour une raison principale, c'est qu'on doit trimballer notre matériel à chaque fois, que ce soit en bateau, à dos d'âne ou à vélo. Et du coup, dès qu'il commence à faire plus froid, il faut beaucoup plus de matériel. Donc il faut une tente adaptée, un sac de couchage, des combinaisons, un gros manteau. Donc tout de suite, ça nous a toujours empêché au final d'aller dans des contrées plus froides. Et c'est vrai que bah, en 10 ans d'exploration, on a commencé à faire un peu le tour, enfin pas le tour, mais on a en tout cas les tropiques, on avait fait un peu le tour et on avait aussi, je pense, envie d'aller voir un peu autre chose. Et donc on est tombé sur cette portion de côte-là qui avait un peu tous les ingrédients pour voilà, surfer des bonnes vagues et vivre une belle aventure et aller voir une fois de plus bah, des endroits peu voire pas touchés par l'homme.
Donc, comme à chaque fois, vous checkez en fait sur Internet, sur les cartes satellites pour repérer vos endroits, c'est ça?
Ouais, c'est un truc de, je pense, de beaucoup de surfeurs. Et nous, on passe vraiment beaucoup de temps à regarder donc les images satellites. Et en plus, maintenant, on a accès aux satellites qui observent le climat, en fait. Et du coup, ils sont beaucoup plus réguliers. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent
On a perdu la connexion.
à des vagues. Il y a plus de 50 ça maintenant avec Ewen. On est tombé sur la vague qu'ils ont finalement réussi à surfer. Mais quand on est tombé là-dessus sur les images satellites, on a vu un petit bout de photo parce qu'il y avait des mecs qui avaient réussi à faire une expédition qui était à l'autre côté de la plage. Je pense qu'ils étaient arrivés en kayak ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment ils étaient arrivés là, mais du coup, on voyait de derrière que peut-être il y avait des vagues. Et ça nous avait hyper motivés, on trouvait ça incroyable, sauf que c'était un endroit qui était complètement inaccessible. Alors c'est pour ça qu'on était parti essayer avec des ânes, parce qu'à un moment, on avait pensé pouvoir aller à cet endroit-là avec des mules. Sauf qu'en fait, c'est complètement inaccessible, et heureusement qu'on n'a pas essayé, parce qu'on n'aurait pas fait 200 mètres dans la forêt. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Et du coup, bah, on est resté un peu sur notre faim, à continuer à observer toutes les saisons, pendant 5 ans, ce que donnait cet endroit-là. Et c'est vraiment grâce à la rencontre avec Erwan qu'on a eu la chance d'y aller, quoi.
Alors justement, la rencontre avec Erwan Lelane, vous pouvez en parler, parce que vous êtes parti avec deux skippers, Erwan Lelane et Eric Perron. Comment ça s'est fait cette rencontre?
Bah, c'est un bout de temps qu'on se croisait sans vraiment se voir, qu'on avait entendu parler les uns des autres, je pense, à travers des festivals de films d'aventure qu'on avait pas mal parcouru à travers la projection du film du Gabon. Et en fait, un beau jour est venu, on a rencontré Erwan et Marion, sa copine, donc qui gère l'association MyOne à Paris. Donc il y avait Pardon, il y avait un festival d'aventure là-bas, et donc on les a rencontrés, et donc ça a plutôt bien matché. Et Erwan nous a proposé de le rejoindre sur une de ses destinations, sur son parcours, dont le Chili faisait partie. Et donc là, ben, pour nous, c'était le voyage offert sur un plateau, donc on pouvait ne pas, pas ne, on pouvait pas refuser. Et donc c'est comme ça que voilà, qu'a commencé l'histoire.
Ok, et avec Éric Perron qui est aussi parti avec vous?
Et Eric, du coup, c'est un copain d'Erwan. Ils se sont rencontrés à un trophée qui s'appelle Homer et Montagne. C'est un événement qui regroupe des grands alpinistes et des grands marins. Et donc, voilà, les connexions sont faites comme ça. Et Eric nous a dit la dernière fois qu'il avait déjà embarqué pour le voyage avant même que nous, on soit initiés dedans.
Ok.
Donc, en fait, Erwan, lui, est plutôt montagnard. Malgré son prénom, Erwan Lelane, en fait, c'est un breton montagnard. Et donc, c'est un guide de haute montagne, spécialiste de l'escalade sur glace. Et en fait, quand il s'est lancé il y a 5 ans avec son bateau, il connaissait pas grand-chose à la navigation. Par contre, via ce trophée Mer et Montagne, il a rencontré beaucoup de skippers renommés. Et donc, il a l'habitude de les faire venir sur le bateau. Pour lui, c'est un gage de sécurité aussi. Ben, comme ça, je pense qu'il a énormément appris en 5 ans. Voilà.
Et on a appris
Et...
que Éric Perron surfait aussi, donc il en a profité avec vous un peu.
C'est pour moi? Ouais, pardon. carrément, il sort bien, le petit. C'est... En fait, il habite hyper proche de la Torche.
Ouais.
Et du coup, finalement, je suis un peu jaloux, hein, moi, de son niveau de surf par rapport à ça. C'est comme quelqu'un qui aurait un terrain de foot en bas de chez lui. Lui, il a un spot de surf en bas de chez lui. Et du coup, je pense, réussi à être très bon en surf sans forcément être aussi acharné que certains peuvent l'être, à devoir faire beaucoup de kilomètres, avoir très peu de créneaux pour y aller. Et donc lui, c'est juste une passion comme ça à côté de. Il est pas autant accro que plein de surfeurs, quoi. Mais par contre, il surfe hyper bien. Il est hyper athlétique parce que il a pu vraiment s'amuser là sur la droite à la fin, alors qu'il avait une planche toute petite qui n'était pas vraiment adaptée. C'était plein de courants. Donc ouais, il nous a un peu impressionné sa capacité à surfer comme ça au milieu de nulle part, quoi.
Alors, la droite, on va y revenir, mais d'abord, moi je voulais savoir comment vous préparez pour un voyage comme ça. Donc, maintenant on a parlé un petit peu du repérage à l'avance, mais finalement j'imagine qu'il y a beaucoup de préparation. J'ai lu que avant de partir au Salomon, par exemple, vous avez rencontré des anthropologues pour savoir comment ça se passait sur place. J'imagine que chaque préparation est aussi différente, mais vous avez peut-être des rituels, des choses que vous faites à chaque fois pour vous préparer.
Ouais, bah, l'idée, c'est quand même de bien se renseigner en amont pour être le plus prêt et adapté possible, on va dire, avec le matériel une fois sur place. Là, la préparation a pris du temps dans le sens où le temps qu'on repère les vagues, qu'on décide d'y aller, qu'on teste le moyen de transport des ânes, qu'on revienne, qu'on constate que c'était la cata, qu'on pouvait pas y aller, qu'on re-rencontre Erwan. Ça fait 5 ans de préparation, mais c'est pas 5 ans de préparation acharnée à préparer les sacs pendant 5 ans. Là, c'était plutôt un trip assez facile pour la logistique parce que ben, Erwan avait le bateau, donc on est arrivé avec nos sacs, un peu nourriture lyophilisée au cas où qu'on n'arrive pas à pêcher. Et voilà, on a préparé le bateau en quelques jours et ensuite on est parti. Pour nous, c'était quand même. Enfin, tu me diras, Ronus, hein, si tu trouves ça aussi, mais c'était quand même un des trips les plus faciles de par le confort que nous apportait le bateau. Parce que déjà, on n'était pas en mode tortue à trimballer nos 70 kg de matériel chacun. Et ensuite, on avait un lit et une cuisine à hauteur d'homme. Chose qu'en 10 ans d'aventure, on n'a jamais eu ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment fatigant. Autant les journées quand on les passe à faire du vélo, à crapahuter avec les ânes, etc. C'est physique. Mais le soir, quand il faut encore ramasser du bois, faire à manger, se casser le dos pour peler les patates, monter la tente, et ben, c'est vraiment ça qui nous scie les pattes. Et sans la remarquer, comme disait Ronan, avec le poids de l'âge, franchement, là, autant il y a 10 ans, ça passait, mais les derniers trips qu'on a fait de ce genre-là, on s'est rendu compte que bah, c'était plus la même. Hein. Même si on n'est pas ultra vieux, hein, on a tous les trois aux alentours de 36-37 ans. Mais voilà, donc le poids de l'âge.
Bah, ce que tu peux dire, c'est qu'on a en plus pour la préparation, moi j'ai rien foutu, hein, j'étais pas là, c'est bien, mais
Ouais, toi, t'es
j'avais.
arrivé via un autre moyen de transport, c'est ça? T'étais avec Yves Leblévesque, non?
Ouais, c'est ça, bah, je suis arrivé malheureusement en avion après, mais oui, j'étais en retard, et du coup, je suis heureusement, c'est beaucoup Ewen qui s'est occupé justement de la logistique et du matériel, là. Et même si j'ai pu être de bons conseils, moi j'avais la chance d'avoir été équipé par le team actuel en fait. Donc j'avais des cirés qui étaient pas mal et surtout des sous-couches. Et j'avais un peu cette expérience. Et après, Rico nous a donné aussi pas mal de trucs. On a quand même été obligé d'acheter des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de mettre, des collants en mérino, des chaussettes étanches, tout un tas de sous-couches en fait qu'on n'avait vraiment pas du tout l'habitude de porter ni d'utiliser. Et voilà.
Non, c'est vrai, parce que au final, ce qui est difficile de savoir avant de partir, c'est bah, à quel climat on va se confronter. On savait que c'était l'été, mais que ça restait la Patagonie, donc on savait qu'il allait pleuvoir, mais peut-être qu'il allait faire beau. Et surtout au niveau de la température de l'eau, on a galéré à trouver bah, des infos, hein, donc à savoir à quelle température elle était, sachant qu'on allait surfer à la sortie d'une rivière d'un glacier. Et donc la fourchette pouvait aller de 10 à 0 degrés. Et donc pour ça, Oxbow, ils nous ont fait des combinaisons épaisses sur mesure qui étaient top. Et en plus de ça, en rencontrant un pote là qui a l'habitude d'aller dans des endroits assez froids, il nous a conseillé d'acheter des lycras chauffants. Donc
Ok.
on avait carrément ça avec nous. Voilà, on était. Donc ça, c'est le genre de choses qui est vraiment important à préparer en amont. Parce que si on arrive sur place et que la combi ça le fait pas ou ce genre de choses, bah ça compromet tout le trip direct. Donc voilà, donc vraiment se renseigner en amont et essayer de vaut mieux prendre plus que pas assez. Au final, les lycras on les a pas utilisés, mais je regrette pas de pas les avoir pris parce que si l'eau avait été vraiment à 0 degré, on n'a pas le choix que de les prendre.
Parce que l'eau était à
Et
combien finalement?
ben on ne sait pas parce qu'on n'avait pas de thermomètre.
Et à vue
Alors,
de
au
nez
niveau
comme
du
ça.
bateau. Au niveau du bateau, elle était à 8,
Ouais.
sauf que le bateau, il était enclavé dans une baie, et le spot, il était vraiment à la sortie de la rivière, qui était à quelques kilomètres, donc on prenait vraiment toute l'eau glacée du glacier. On voyait même à la couleur que c'était pas la même qu'au niveau du bateau. Donc après, elle n'était pas à 1 degré, mais je pense qu'elle était quand même à moins de 8.
Et pour arriver justement à cette vague, ça avait l'air d'être une bonne mission tous les jours, une bonne galère, surtout avec tout le matos à ramener.
Ouais, bah après, oui, c'était vraiment galère et surtout pour Ewen et Aurel parce qu'eux, ils devaient surfer après, donc ça rajoute vraiment physiquement, c'est dur. Après, c'était aussi ça, quelque part assez rigolo comme mission, mais c'est vrai qu'à vol d'oiseau, c'était peut-être à 3-4 km, mais à chaque fois, il fallait tout se préparer, en général plus ou moins sous la pluie, avec toujours une partie de l'équipage qui dort pendant que l'autre est debout parce que le bateau il est tellement petit qu'on peut être debout tout le monde en même temps. Prendre l'annexe, traverser la baie, débarquer sur une plage, marcher longuement un peu dans la toundra, arriver à un endroit où en fait on pouvait passer qu'à un certain moment de la marée ou quand il n'y avait pas trop de houle et plus la marée était haute et plus il y avait de houle, il fallait qu'on attende entre deux séries de vagues pour pouvoir passer ou en escaladant dans les cailloux à chaque fois. Tout ça avec donc le les planches de surf et les combis, il les laissait là-bas, mais il y avait quand même le matos photo, vidéo, plus la bouffe et tout ça à trimballer. Après, il fallait remarcher, traverser une rivière qui n'arrêtait pas de s'agrandir au fur et à mesure qu'il pleuvait, puisqu'il n'arrêtait pas de pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Donc, d'un jour ou l'autre, la rivière, elle prenait 1, 2, 3, 4 mètres de plus en largeur. Donc, à chaque fois, c'était très compliqué de faire un va-et-vient avec le stand-up paddle. Et après, il y avait encore une longue marche sur toute la plage pour arriver enfin au spot. Donc, ça nous prenait, quand on était hyper bien calé, un peu plus d'une heure, et les premières fois, ça nous a pris plus de 2 heures, quoi.
Ouais, quand même. Et bah, je continue une question pour toi, Ronan. Pour le coup, bon, on va dire breton, t'es habitué à filmer sous la pluie, etc. Mais là, ça avait l'air d'être dans des proportions différentes encore. Comment t'as
Bah, ouais.
réussi à t'en sortir?
Bah, je croyais être le mec le plus étanche du monde et avoir une expérience de ouf à filmer sous la pluie parce que je l'ai fait pour Baravel justement à rester 6 heures sur un caillou sous la pluie. Mais là, j'étais pas prêt à ça parce que c'était vraiment hyper intense, aucun répit. Pour moi, je m'en sortais parce qu'une fois qu'ils arrivaient sur place, Nono et moi, ils se changeaient. Donc ça me faisait 2 cirées de plus. Donc je mettais 2 cirées, voire des fois 3 cirées sur moi. Et même si eux, ils étaient trempés avec la sous-couche en dessous, ça faisait que j'étais, moi, de temps en temps, à peu près sec. Par contre, le gros problème, c'était mon appareil, mes objectifs. Alors, j'ai une super protection faite pour ça qui est adaptée à l'objectif, à l'appareil et tout, qui était une première couche. Et après, je mettais un caouet, des fois un ciré par-dessus en plus. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie à filmer, vu que l'appareil photo, il dégage de la chaleur, en fait, ça faisait de la buée à l'intérieur de mon objectif. Enfin, pas de l'objectif de mon viseur, et du coup, je voyais pratiquement plus rien de ce que je filmais. Donc, c'était vraiment pas facile. Et surtout, ça, je dirais, ce qui était plus frustrant là-dedans, d'avoir autant de pluie, c'est que ça, moi, pour faire des images, bah, il fait gris partout, et puis on voit rien. En fait, on voyait à peine. Déjà, les surfeurs, j'avais du mal à les voir. Et alors que dès qu'il y avait le moindre rayon de soleil qui passait, le paysage était magnifique, il y avait des montagnes de ouf partout, certaines enneigées, des bouts de glaciers, des trucs. Et du coup, c'était hyper frustrant parce que je sais pas, on a dû avoir un quart d'heure de soleil pendant une semaine, quoi. En gros, c'est à peu près ça, distribué avec 30 secondes, 1 minute par là. Et dès que le soleil arrivait, c'était magnifique, incroyable. Et du coup, toi, tu es complètement crampé dans tes 50 couches, ton appareil, il est plein de buée, il faut que tu essayes de changer d'objectif, de lancer le drone, machin, de faire un truc, et puis ça dure 1 minute, et paf, il repleut, il grêle, enfin. Donc c'était frustrant.
Ouais, et en plus, t'avais pas le matos d'aqua, donc t'as pas pu aller prendre des images dans l'eau. Ça, c'était frustrant aussi, ou...
Pas vraiment. On était vachement limité au niveau du poids. Je pense que si je l'avais eu, j'aurais essayé peut-être 1 ou 2 jours, mais le problème, c'est que c'était une. Enfin, le problème. Ce qui est génial avec cette vague, c'est qu'elle était hyper longue.
Ouais.
Et apparemment, il y avait beaucoup de courant dans l'eau. Donc, quand tu as une vague, en fait, quand on est dans l'eau, on ne peut pas prendre en image toute la vague en entier. Il faut forcément choisir un endroit. Et donc, du coup, ça gâche un petit peu le potentiel d'image. Et puis, apparemment, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de courant dans la vague. Donc, je pense que j'aurais beaucoup barboté pour pas grand-chose.
Ouais, ça aurait été une bonne galère pour finalement
C'est ça.
pas tant que ça d'images. Et est-ce que vous avez un ou plusieurs moments qui vous ont vraiment marqué plus que d'autres là pendant cette aventure ou peut-être des galères que vous avez coupées au montage
Non, tu sais, je coupe pas grand-chose au montage.
Ouais,
On me
bah,
l'approche.
vous aimez bien justement conserver les moments de galère.
Non, je sais pas comment t'as une idée.
Ouais, bah, enfin non, c'était plutôt un peu, on va dire, la quête des vagues. Au début, c'était très frustrant parce qu'on était vraiment contraint par la météo de choisir notre itinéraire en fonction de ça. On a repéré beaucoup de spots sur la route qu'on n'a pas pu aller voir.
Ouais.
Donc, on savait que c'était un peu la seule chance qu'on aurait dans notre vie d'aller voir ces spots-là qu'on se rêvait depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment un côté, c'est pas facile. Donc on a quand même réussi à surfer la Magic Bay, là, donc le premier spot où on a eu des bonnes vagues. Donc ce spot-là, on se serait rêvé d'y rester ne serait-ce que 2-3 jours, parce que je pense que c'est l'endroit au monde où j'ai vu le plus de potentiel de vagues. Donc dans une petite baie, il doit y avoir 5 ou 6 spots.
Ah, t'as bugué au moins.
Ouais, on t'a perdu.
Plogoff!
Toi, Toi,
Bah merde!
t'étais déjà arrivé à ce moment-là, Ronan?
Ouais, j'étais déjà arrivé, donc c'est dans le deuxième épisode là, et c'est vrai que c'est un endroit qu'on a repéré plus tard sur les images satellites grâce justement à ces histoires d'images satellites du GIEC là. Et c'est vrai que c'est un endroit qui paraissait incroyable, où il y avait un potentiel de vague dans tous les sens, avec juste une petite crique où potentiellement on pouvait mettre le bateau. Et sauf que c'est en fait déjà que c'est des endroits de navigation qui sont hyper dangereux. Là, cet endroit-là, on était vraiment obligé de partir complètement au large et donc d'être vraiment un peu au milieu du Pacifique là et de re-rentrer dans cette baie-là. Et une fois qu'on était dedans, bah il fallait forcément ressortir et la météo était, on avait un créneau d'une journée et demie en gros pour pouvoir y aller. Et si jamais on se mettait à l'intérieur de cet endroit-là, eh ben, la météo prévoyait 40 nœuds, 50 nœuds à venir, et donc potentiellement on pouvait rester bloqué plusieurs jours à cet endroit-là sans jamais savoir à quel moment on allait pouvoir sortir. Et l'abri n'était pas terrible, il n'y avait pas finalement beaucoup d'eau, c'est-à-dire que le bateau il touchait presque à marée basse au fond dans la baie. Donc c'était vraiment très très compliqué. En plus, Erwan il avait son staphylocoque doré là, qui lui faisait gonfler son doigt dans tous les sens, donc c'était vraiment un gros coup de stress pour lui. Et donc c'était évident que en gros on est resté juste une nuit, on a surfé vite fait quelques ils ont surfé vite fait quelques heures le lendemain matin et puis on est reparti direct avant que le coup de vent arrive. Et c'est vrai que c'était tellement frustrant de rester que quelques heures à un endroit où on s'était imaginé voilà d'y rester beaucoup plus longtemps, de voir tout plein de choses autour parce que c'était magnifique, il y avait des loutres, des phoques, des enfin l'endroit était vraiment incroyable. Donc, la question des frustrations qu'on a pu avoir et qu'on ne met peut-être pas en avant, c'est vraiment ce moment-là. On aurait adoré en profiter beaucoup plus longtemps.
Ok. Est-ce qu'on a retrouvé... Ouais, je suis pas sûr.
Ah, il y a un début de quelque
Si, je
chose
suis
là.
là.
Ah,
Ah, le retour.
c'est
Ouais.
le retour du bonhomme bleu qui parle. Ah non, c'est
Ouais,
bon.
j'ai plus de forfait. J'ai épuisé tout mon forfait à télécharger les épisodes ce mois-ci.
Ouais, donc on parlait de la Magic Bay. Ronan avait fini de m'expliquer un petit peu la difficulté de rester dans ce coin-là, même si ça donnait envie, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et après, cerise sur le gâteau, la fameuse droite qu'on a découvert à la fin du trip. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu cette chance-là de pouvoir la surfer, bah, je pense qu'on aurait eu un gros manque, un goût amer un peu de voilà, de pas avoir eu les vagues qu'on espérait pendant ce voyage-là, quoi. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et de ce fait-là, cette semaine-là, à surfer cette vague-là, c'était un peu le rêve ultime. C'était vraiment voilà, ce qu'on cherchait à travers ce voyage-là, donc c'était top. Donc il y avait un peu de suspense au début, et à la fin, comme on dit, scoré, donc c'était royal.
La grosse récompense sur la fin de toute l'attente qu'il y a eu avant, quoi.
Voilà, exactement. Ouais.
Alors pour élargir un petit peu plus et puis pour du coup se tourner vers l'avenir, aujourd'hui vous êtes sponsorisé, mais vous êtes obligé de chacun bosser un petit peu à côté. Vous pouvez pas faire que Lost in the Swell. Est-ce que l'objectif, c'est à terme de pouvoir faire que ça, de continuer à développer des sponsors, etc. Ou non, ça va être trop compliqué, et puis c'est peut-être pas l'envie non plus?
Bon, je pense que ce serait potentiellement l'envie. Après, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de travail pour déjà arriver à produire cela. Et puis bon, il faut là la conjoncture, c'est pas trop à la fête, hein. Donc, enfin, je sais pas, Ewan, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais on aimerait bien dans l'idée faire que ça. Mais on a essayé de le faire, on n'a pas réussi, et je pense que la conjoncture fait qu'on n'arrivera pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter.
Ouais, bon. Ouais, non, c'est sûr. Bah, idéalement, oui. Si on pouvait être payé toute l'année à faire que ça, on dirait pas non. Hein. Et ensuite, on va essayer de faire vivre le film, je pense, à travers des festivals, organiser des petits événements, essayer de vendre le bouquin qu'on a fait justement pour ce trip-là. Donc, ce qui va nous permettre de financer aussi nos prochaines aventures. Après, niveau financier, je pense qu'aucun de nous trois a besoin des 1000 et des 100 pour vivre à l'année. Surtout du fait qu'on soit sponsorisé. En tout cas, pour moi et Nono, on a nos planches gratuites, nos combinaisons gratos. Donc c'est quand même
des choses qui nous permettent d'être plus serein et du coup d'avoir quand même beaucoup de temps pour nous, quoi.
Pour faire pousser des carottes, quoi.
C'est important
Et je voulais savoir aussi, est-ce que derrière Lost in the Swell, un peu dans la continuité de Baravel, il y avait l'idée de faire, on va dire, reconnaître le surf breton ou voilà, de le remettre un petit peu sur en avant ou pas du tout, c'était vraiment tourné vers l'aventure?
je pense que ouais non, le côté breton, c'est ce qui se ressent à travers justement cette envie d'aventure, hein. Je pense que finalement c'est un peu ancré dans notre culture très maritime. Et non, c'était plutôt l'envie de casser les codes des films de surf en fait. Ils sont toujours un peu, c'est très californien, c'est toujours un peu la même chose. Voilà. Et du coup, je pense qu'on voulait produire ce qu'on n'avait jamais vu ou ce qu'on avait vu qu'à travers quelques rares productions avant, quoi.
Ok.
Et j'ai
Ouais,
l'impression qu'on a
Baravel,
trouvé. Vas-y, pardon.
non, non, Baravel, c'est clairement mettre le surf breton en avant. Ensuite, nous, en tout cas, enfin, Nono, elle surfe mieux que moi, mais on n'est pas des rockstars de surf, on n'est pas connus pour notre niveau de surf. Donc, je pense qu'il y a d'autres surfeurs bretons qui seraient bien mieux placés que nous pour mettre le surf technique, on va dire, en avant. Après, à chaque fois, je trouve que c'est des voyages, des rêves qu'on réalise à chaque fois. Hein. En tout cas, si on parle, bon, peut-être pas des illusions, quoique, hein, c'était bien de se confronter à la réalité, mais les îles Salomon, le Gabon et la Patagonie, ces trois voyages qu'on a vécu qui étaient incroyables, qu'on a eu la chance de vivre ça à notre époque, d'aller dans des endroits très reculés, quasiment intouchés par l'homme, moi, c'est vraiment des choses. Dans ma vie que je retiendrai et qui voilà qui non non c'est personne ne me force à aller faire ces voyages-là donc c'est plutôt voilà plutôt le côté personnel hein, qui fait qu'on réalise ces voyages-là et ensuite bah, le fait de communiquer dessus grâce au film de Ronan bah, ça nous apporte énormément de choses en plus et voilà et on inspire d'autres gens d'autres jeunes donc ça c'est top aussi.
Ce qu'on peut dire, c'est que notre public est quand même pas mal bretonnant au départ, quoi. Notre core base au départ, c'est des Bretons, quoi, parce que c'est ceux qui nous connaissaient, et puis parce que c'est va être plus facilement des gens qui vont faire de la voile, qui connaissaient voilà, un petit peu tout ce qu'on a fait, même si maintenant on a un public beaucoup plus large, quoi.
Ben, je voulais venir justement le public plus large. Est-ce que vous avez quelque part une petite reconnaissance dans le monde du surf? J'ai vu que vous avez fait des interviews pour Surf Session, par exemple. Enfin, il y a des gens qui s'y intéressent d'un public beaucoup plus large que les surfeurs bretons, quoi.
Bah, c'est ce qu'il faut dire, c'est que oui, carrément. Moi, ce qui a commencé à arriver, je sais pas si tu peux, c'est après le Gabon, je pense, Ewan, là, on s'est rendu compte que j'ai du mal à m'exprimer. On savait pas comment les surfeurs du reste de la planète, on va dire, et de France, allaient nous percevoir, parce que même dans notre façon de parler et de faire les blagues, on a un accent un peu breton, on a des expressions un peu bretonnes des fois. Et c'est au fur et à mesure, maintenant, Ewen et Aurel, c'est des rockstars dans l'eau, où qu'ils aillent, quoi. Et dans le sens où il y a un contact beaucoup plus sympa, c'est plutôt comme si c'était un pote que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ewen, mais c'est assez rigolo ce ressentiment.
Carrément, on a énormément de retours positifs des gens. Donc ça, c'est top. Dès qu'on croise quelqu'un, comme tu dis, ils ont l'impression de nous connaître. Et du coup, l'échange est facile. Et à chaque fois, c'est des bons retours. C'est vrai, c'est top ce que vous faites, continuez, etc. Après, non, ouais. Après, bon, je sais pas au niveau du surf de haut niveau. Je sais qu'on a eu quelques retours de bons surfeurs, voire très bons surfeurs, qui étaient admiratifs dans le sens où ils trouvaient, enfin, que. Eux nous disaient qu'ils seraient incapables de faire ça, dans le sens où ils seraient incapables de galérer 2-3 semaines sans surfer pour aller surfer une vague à terme. Mais... Donc,
Parce qu'on
voilà.
a eu de
Et
la
après, je
chance.
pense que le surfeur moyen français. Ouais!
Pardon. Ah merde, ah si.
Est-ce que tu es toujours avec nous? Ouais.
Ok.
Tu bugs un peu, Ewen.
Bon, bah j'ai fini.
T'as fini de te jeter des fleurs sur le. Mais on a le dernier public qu'on a un peu de mal à toucher, c'est le public anglo-saxon, qui est pourtant une grande partie de la planète surf, hein, mais qui est vraiment pas du tout habitué à lire des sous-titres en fait.
Ouais.
Autant nous, ça nous arrive de regarder plein de films étrangers avec des sous-titres. Eux, ils ont un peu de mal. Par contre, ceux qui le font, parce qu'il y en a quand même une bonne partie, c'est des mecs qui deviennent des hardcore fans, qui mettent des commentaires partout. Et si la moindre vidéo, on n'a pas mis des sous-titres directs en anglais au moment où on l'a sorti, on se fait engueuler tout de suite.
Oui, donc ça commence à toucher son public aussi, quoi. Peut-être une dernière question, après je vais vous laisser, mais comment vous vivez le confinement là et comment vous positionnez, je sais pas, par rapport on voit plein de pétitions pour permettre aux surfeurs de retourner surfer, etc. Vous vivez comment cette période-là, vous?
Bah, moi perso, je travaille de chez moi et j'ai plein de boulot en retard, donc ça change pas grand chose. Et puis je suis un peu un geek qui était déjà confiné de naissance derrière son ordinateur. Après, c'est sur le sujet vraiment du surf, tout ça, c'est très touchy. On essaie de pas trop, enfin je sais pas si t'en penses, ouais, mais de pas trop se prononcer parce que ça c'est tellement à vif chez les gens que ça part tout de suite beaucoup en sucette dans tous les sens.
Ouais, après, on est d'accord que s'ils avaient fait comme le gouvernement australien et autorisé les sports individuels, bon, on était plutôt favorable à cette décision-là, quoi.
Oui, bah c'est sûr, c'est sûr.
Donc, après, ouais, bah, ça permet de changer un peu de rythme de vie, je pense, pour beaucoup de personnes, peut-être de ralentir, de se retrouver un peu chez soi, avec ses enfants, nous, on n'en a pas, mais. Et peut-être, voilà, comme on disait là, permettre de faire pousser des carottes, plutôt que de courir à droite à gauche et d'envoyer 10 000 mails, quoi.
C'est sûr. Bah, juste la dernière question, vous avez un autre projet en tête, enfin vous avez déjà dit tout à l'heure que c'était pas fini, mais c'est sûr, vous allez repartir sur un autre chose.
J'espère. On a plein de pistes en même temps, en fait, et on n'ose vraiment pas se prononcer tant qu'on n'est pas sûr d'y arriver, en fait. C'est un peu une marque de fabrique chez nous, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on espère tous qu'on va repartir, on va tout faire pour, mais on ne sait pas encore où, comment, vraiment. Et on ne vous le dira pas, surtout.
Oui, logique. Mais a priori, vous travaillez quand même pour repartir.
Là,
Clairement.
si pour revenir sur le confinement et tout ça, ce qui va peut-être changer, est-ce qu'on essaye de réfléchir de plus en plus, c'est de pas prendre l'avion finalement, d'essayer de voyager le plus simplement possible et peut-être plus localement, quoi. Et je
OK.
pense que c'est ce qui va changer de cette parce que les surfeurs sont quand même des grands voyageurs et j'imagine que c'est un des premiers enseignements de cette crise et tout ça, c'est que bah, on est beaucoup moins mobile en ce moment, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que l'empreinte carbone du surfeur est pas forcément top top,
Génial.
surtout dans le coin.
Non.
Bon. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps.
Bah, de rien.
Ouais, cool, bah merci, hein.
Et ben,
Ouais,
merci à
merci
vous.
beaucoup.
Et puis,
Et bonne journée.
bah ouais, vous aussi, bonne fin de confinement.
Yes, pareil.